Le film RMC de la Coupe du Monde, Jean-Louis Tour.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant sur RMC. On est en train de se faire plaisir parce qu'on revit le film RMC de la Coupe du Monde avec Jeannot Rességuier, la voix des Bleus, avec Arthur Perrault qui a suivi l'équipe de France pendant toute cette Coupe du Monde au Qatar. Et on rentre dans le vif du sujet tout de suite. On va refaire tous les matchs en détail de l'équipe de France jusqu'à la finale face à l'Argentine. Tout de suite, on se remet dans l'ambiance du premier tour. Australie, Danemark et Tunisie pour l'équipe de France.
RMC Coupe du Monde de la FIFA 2022.
Avec l'équipe qui a fait la différence, qui va centrer. Il est au sol, la frappe et le but. L'ouverture du score pour l'Australie. Goodwin, on va peut-être revenir au départ de l'action parce qu'il y a Lucas Hernandez qui est au sol sur le 1 contre 1 avec l'équipe. Il fait la différence, il prend un coup au niveau du genou. Il se tord de douleur au genou droit et pendant ce temps-là, les Australiens, Arthur, faites ce but pour l'instant. Avec la frappe de Mbappé. Elle passe devant le but. Elle passe devant le but, mais elle va être récupérée par l'équipe de France avec Dembélé. Dembélé à l'opposé. Dembélé qui crochette face à Beach, celui qui a sauvé l'Australie du 3-1. Le centre, la tête, le but de la tête de Mbappé avec le poteau rentrant. Ça fait 3-1. Quand c'est pas avec le pied, c'est avec la tête. C'est rare, mais ça arrive. 3-1 pour l'équipe de France à la 67e minute. Le but est signé. Kylian Mbappé. Griezmann qui va centrer fort devant le but. Mbappé.
Oui.
Le doublé.
Oui.
De Mbappé. Le doublé de Kylian Mbappé. De la poitrine. De la poitrine. On s'en fout. Il y a but. Ça va au fond. Je m'en suis battu. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France. C'est pas fini. Revenez ici. Revenez ici. L'arbitre a corrigé. L'arbitre a corrigé. Il vient de siffler la fin du match. Et de suite, il a regardé le quatrième arbitre. On lui a parlé dans l'oreillette. Il est en train d'aller voir l'image. Il est en train d'aller voir l'image du but d'Antoine Griezmann. Il n'a pas encore validé le but. Il n'a pas encore validé le but. C'est incroyable. Il avait sifflé la fin du match. Il a regardé le quatrième arbitre. Il a regardé, l'arbitre assistant. Dans l'oreillette, on lui a fait signe que c'était pas fini. On lui a fait signe d'aller voir les images. Lui-même décide d'aller voir les images. Il continue de discuter. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va annuler le but? Est-ce qu'il va annuler le but? Il annule le but! Il annule le but!
Victoire de la Tunisie! Victoire de la Tunisie, donc 1-0. Incroyable. C'est fou, Marane n'est jamais raconté, on voit rien nous.
L'arbitre est en train tout simplement de venir à l'endroit même où Antoine Griezmann a récupéré le ballon. Position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Du coup, on est revenu. On n'a pas terminé le match puisque derrière, il a corrigé le coup de sifflet final. Il est revenu sur sa décision avec l'oreillette, ce qu'on lui a dit dans l'oreillette. Il est allé l'expliquer à l'instant même à Kylian Mbappé. Il refuse donc le but à Antoine Griezmann. Oui. C'est incroyable.
Voilà pour ces trois premiers matchs, France-Australie, France-Danemark, Tunisie-France, avec Jeannot Rességuier au commentaire. Lui aussi se chauffait tranquillement sur la phase de poule. Vous verrez tout à l'heure qu'il s'est vraiment donné à partir des matchs à élimination directe, Jeannot. Mais on va revenir donc sur ces matchs. On sera d'ailleurs avec Wahbi Khazri tout à l'heure, le buteur de Tunisie-France, la défaite des Bleus, la victoire de la Tunisie. Il sera avec nous tout à l'heure, mais revenons sur cette entame de compétition de l'équipe de France, Arthur et Jeannot. Bah, ça a mal commencé face à l'Australie, Jeannot.
Oui, enfin, disons que c'était le fameux premier match dont parle toujours Didier Deschamps dans une compétition internationale. On était quand même très attentifs à la composition d'équipe. Donc, il n'y avait toujours pas de retour de Varane pour ce match contre l'Australie. Donc, Konaté ou pas Mécano en charnière, il y avait quand même quelques interrogations. Après, pour le reste, on savait que de toute façon, avec Griezmann, Dembélé, Giroud et Mbappé, ça allait être très certainement ce quatuor-là qui allait, on va dire, accompagner l'objectif des Bleus durant toute la Coupe du Monde. Quand on regarde le 11 de départ, on se dit bon voilà, c'est costaud, c'est solide, mais ça quand même manque un peu d'expérience. Et dès la 9e minute, il y a ce but de Goodwin qui nous refroidit totalement et là on commence sérieusement à partir de ce moment-là à se poser vraiment des questions quoi.
Et la blessure en plus de Lucas Hernandez qui va précipiter l'arrivée dans l'équipe de quelqu'un qui aura un rôle très important sur toute la Coupe du Monde.
Ouais, et c'est vrai que Théo Hernandez, son frère, qui arrive, mais qui n'a pas du tout le même profil. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans l'après-match. C'est-à-dire que Didier Deschamps tout de suite a pensé à Théo Hernandez, mais en se disant que son frère, lui, était beaucoup plus dans les efforts défensifs et que Théo, lui, allait beaucoup plus se projeter. Donc ça allait avoir une incidence sur la suite du parcours des Bleus. dans ce rôle-là, en fait.
Mais une incidence défensive, mais finalement, quand on regarde de plus près, il est à la base de la réaction de l'équipe de France, puisque c'est lui qui est au départ de l'action et à l'arrivée avec le ballon pour Rabiot et pour cette égalisation. Donc ça, c'est déjà le premier point positif, c'est que malgré le coup dur de Lucas et de cette blessure, où on se rend compte très vite que ça, c'est la fin de la compétition pour lui, il y a cette réaction et puis il y a aussi dans ce match-là, une entente qu'on n'avait peut-être pas soupçonnée, que l'on n'avait jamais, en tout cas, vue réellement sur le terrain. Kylian Mbappé avec Olivier Giroud. Quand on voit le deuxième but de l'équipe de France, le but de Giroud, c'est quand même un mouvement qui est remarquable, avec une entente qui est vraiment naissante, mais qui sent vraiment l'efficacité. Après, on retrouve encore une fois Théo sur le renversement de situation avec Dembélé et la tête de Kylian Mbappé, et puis le doublé de Giroud qui, en plus dans ce match-là, égale le record de Thierry Henry. Donc on part dalle, mais finalement à la sortie, c'est une victoire confortable.
Oui.
Il faut pas qu'elle le soit de trop non plus, mais au moins elle est plutôt rassurante. Quoi.
Et elle pose les jalons de ce qui va faire toute la Coupe du Monde de l'équipe de France. T'as parlé de Giroud, du lien avec Mbappé, de Rabiot également, hein, qui marque et qui aura un rôle central tout au long de la Coupe du Monde. Faisons un saut de puce jusqu'au Danemark, ce deuxième match de poule, le 26 novembre. Et là aussi, on pose les jalons de quelque chose d'important pour l'équipe de France, c'est la Coupe du Monde de Kylian Mbappé, étincelant sur l'ensemble de la compétition et qui, avec ce doublé, enlève une belle épine du pied.
Oui, parce que c'est le match qui inquiète. Hein. On est tous d'accord que le Danemark nous a secoué sur la Ligue des Nations avec deux victoires et que, en fixant l'objectif de gagner le premier match, on se dit, mais attention, ça sera aussi le deuxième qu'il faudra gagner et surtout confirmer. Alors après, dans la composition de l'équipe, il y a déjà des modifications. Une par obligation avec Théo Hernandez qui débute à gauche, Koundé qui finalement se retrouve latéral droit, et on apprend après que avec Pavard et Deschamps ça se passe pas très bien et donc du coup Pavard n'existe plus et n'existera plus dans la compétition. Pour le reste, ça bouge pas. Donc ça veut dire que quelque part Didier Deschamps est vraiment bien assis sur ce 11 de départ et en tout cas sur l'animation du jeu et le secteur offensif. Et oui, après c'est vrai que quand on voit ce que fait Kylian Mbappé sur ce match, les deux buts qu'il réalise, et même si entre-temps les Danois égalisent et d'ailleurs on continue à encaisser un minimum un but, donc on a un match où l'équipe de France est au niveau, Kylian Mbappé est encore plus au-dessus du niveau de l'équipe de France. Et on a quand même une équipe danoise qui, à un moment donné, nous fait douter. Donc, ce qui veut dire qu'on n'est pas totalement serein et que même si on enregistre une deuxième victoire consécutive, qui a la qualification au bout et que, allez, mathématiquement, la première place est acquise, on se rend compte quand même que pour l'équipe de France, dans les matchs à élimination directe, il va falloir encore un peu plus hausser son niveau de jeu.
Et je ne sais pas si Arthur, toi qui étais au contact de l'équipe de France, c'est un sentiment qui était partagé en interne, mais moi j'ai vraiment eu l'impression que ce match face au Danemark, il marque un premier virage. Équipe qui nous avait battu en Ligue des Nations, révélation de l'Euro précédent, qui joue très bien, on en a beaucoup parlé les mois précédents, et à l'arrivée on retrouve quand même une certaine solidité, même si on prend un but, on retrouve quelques ingrédients de 2018.
Non, mais il y a un vrai soulagement. Jeannot le dit parce que tout de suite, je me souviens en conférence de presse d'après match, la question est posée à Didier Deschamps, qu'allez-vous faire sur le troisième match ? Et voilà, tout de suite, on sent que le sélectionneur est plus à l'aise, il sait qu'il va pouvoir faire tourner. Voilà, tout de suite, la compétition prend un tout autre tournant parce que on est à l'aise, on arrive à anticiper et Deschamps. On en a parlé longuement. Il avait tout en tête, il avait tout planifié. Et évidemment qu'il avait prévu cette hypothèse-là, que dès le deuxième match, on allait être tranquille et que derrière, c'était le tapis rouge pour ce match face à la Tunisie. Quoi.
On va en parler du match avec Wahbi Khazri dans quelques instants, mais quand tu regardes les changements qu'effectue sur la Tunisie Didier Deschamps, tu as raison de le préciser, Arthur. Il savait très bien que ce scénario-là arrivait.
C'était calé.
Sur un match de compétition internationale, il effectue 9 changements, ce qu'il n'avait jamais fait, même pas sur un match amical. Et dans ces changements-là, certes, il ne modifie pas la structure de jeu. Il met Guendouzi à la place de Griezmann, il met Fofana et Veretout dans le rôle de milieu de terrain, mais derrière, il ne met que 2 attaquants et il met Coman avec Kolo Muani. Kamavinga à gauche, c'est un laboratoire, c'est une expérimentation.
Testé quelques jours avant l'entraînement seulement.
Exactement. Voilà. Et Disasi, pareil, à droite. Donc ça veut dire que pour lui, c'était le scénario qu'il avait imaginé, les changements qu'il devait effectuer. envoyer un signe fort à l'ensemble du groupe en leur disant bah, c'est le seul match, vous allez voir quelque chose de grand, c'est-à-dire vous allez voir ce que peut représenter un match de Coupe du Monde, parce qu'après ils disparaissent. Ouais, ouais. Il y en a un ou deux qui vont avoir un rôle déterminant dans, on va dire, des changements pas stratégiques, mais parfois par obligation, mais il n'empêche que ils jouent la Coupe du Monde à quoi ? Allez, 14 15 joueurs, Didier Deschamps.
Et l'histoire de ce match aussi, eh ben, c'est ce fameux but d'Antoine Griezmann. On est à la fin du match, on pense avoir égalisé, on est dans l'euphorie de l'égalisation, l'équipe de France invaincue. On va pour leur rendre l'antenne, et là, on a une petite voix dans le casque. Revenez, revenez, revenez nous
pour
voir.
Pour vous raconter la scène, c'est vrai que avec Jeannot, on a vécu un moment incroyable.
Parce que
incroyable.
Lui entend ce que je dis.
C'est un moment incroyable, parce qu'on va tout vous raconter. C'est toi qui présentais Jean-Louis, et voilà, on imagine tous que la fin du match est sifflée, et Jeannot dit mais revenez, revenez, revenez. Et
parce qu'on a l'impératif d'un billboard publicitaire.
Voilà. Une petite pub, oui.
Une toute petite pub.
Il faut l'envoyer assez vite.
Mais
il
faut, faut
surtout pas qu'on parte dans l'écran suivant.
Voilà.
Et donc, voilà, moi je mets gosille en disant revenez, revenez. Et moi, se passe quelque chose, revenez, revenez. Et heureusement, le billboard ne fait que 10 secondes. Quoi.
C'est, on est sauvés. On l'a entendu tout à l'heure sur le
voilà.
match.
Et on voit l'arbitre tout de suite aller vers la vidéo. Et donc, on reprend l'antenne. Tu reviens très vite vers nous et on sent qu'il se passe un truc incroyable. Parce que on a senti tous les deux que l'arbitre avait d'abord dit aux joueurs de reprendre le jeu et dans la foulée, le coup de sifflet final et voilà, la règle était importante et on l'apprend seulement
finalement le but est refusé, la Tunisie s'impose et on va continuer de parler de ce match avec notre invité Wahbi Khazri, l'attaquant tunisien, le buteur et dans le film RMC de la Coupe du Monde. Salut Wahbi.
Salut tout le monde.
Alors, je disais, peu de conséquences sur le parcours de la France, ce match-là. En revanche, pour vous, ça a permis de finir cette Coupe du Monde sur une très très bonne note.
Ah oui, carrément, exceptionnel. C'est vrai que pour la France, ça n'a pas changé grand-chose. Mais pour nous, ça a été exceptionnel parce qu'on finit avec 4 points. On bat peut-être les futurs champions du monde. On les a rebattus. Donc sur ça, déjà, c'est une victoire de prestige pour nous. Et puis, au vu du match qu'on a fait, même si ce n'était pas forcément l'équipe... titulaire, bah, on a fait un vrai match de football et on a mis tous les ingrédients pour gagner ce match. Et c'est pour ça qu'on l'a gagné. Donc, voilà, à la fin du match, j'ai eu beaucoup de questions où on remettait un peu en cause l'effectif de la France ou la composition. Mais je pense que le mérite nous revenait rien qu'à nous. Quoi.
Justement, Wahbi, vous étiez au courant qu'il y allait avoir autant de changements, que Deschamps allait faire automatiquement un turnover aussi important dans la mesure où l'équipe de France était qualifiée. Et vous l'avez pris de quelle manière, justement, tous ces changements ?
Non, les changements, bah, c'est humain et c'est normal et c'est cohérent. Quand on est footballeur de haut niveau, quand on connaît l'importance de la récupération, on sait que c'est dur d'enchaîner 6-7 matchs en 3 semaines, 1 mois. Donc on savait que voilà que l'équipe de France allait sûrement faire tourner son effectif. Nous, on l'a préparé de la même manière parce qu'on jouait aussi notre qualification et à un but près, on aurait pu sortir des poules. Donc on l'a joué, on a mis les ingrédients nécessaires pour gagner ce match, peu importe qui avait en face. Et on l'a vu que quand à une demi-heure de la fin, toutes les stars et tous les top joueurs de cette équipe sont rentrés, ben, on a quand même pas concédé de but et on a réussi à maintenir ce score, même si on a vu quand même la différence avec les entrées des certains joueurs, mais voilà, nous on l'a abordé de la même manière qu'on a abordé les deux autres matchs, et ce qui fait que voilà, on a eu une victoire, je pense, méritée sur ce match parce qu'on a fait un super début de match, notamment. On a un peu souffert à la fin avec les entrées, mais on a fait un vrai match.
Et est-ce que tu n'as pas des regrets, là on est quelques semaines après cette phase de poule, des regrets sur les premiers matchs ? Parce que vous faites 0-0 contre le Danemark, vous perdez contre l'Australie, et quand on voit que vous avez réussi à battre l'équipe de France, il y a forcément de quoi avoir des regrets ?
Ouais, les regrets, surtout quand on voit le parcours du Maroc qui, voilà, qui a été exceptionnel et qui a montré un peu la voie à beaucoup d'autres pays. Je pense qu'on rate une mi-temps sur ces 3 matchs. C'est la première mi-temps contre l'Australie et on le paye cash parce que je pense que c'est cette mi-temps-là qui nous fait ne pas sortir des poules. Et oui, des regrets sur cette première mi-temps contre l'Australie parce que je pense que voilà, sur 6 mi-temps, on en rate une et c'est on le paye cash.
Et en plus, toi, tu joues pas ces deux premiers matchs. Ça doit être hyper frustrant.
Ouais, frustrant parce que je m'attendais pas à ne pas jouer. Après, ça a été les choix du coach. Je les ai respectés. J'ai continué à travailler. J'ai toujours eu le même état d'esprit. J'ai toujours encouragé mes collègues et j'ai été récompensé sur ce dernier match parce que, voilà, quand tu joues pas, c'est les gens parlent et toi, c'est bien beau de dire que tu veux jouer. Mais quand tu joues, faut répondre présent.
Wahbi Khazri, si on revient sur le match contre l'équipe de France, vous, sur le terrain, concrètement, vous l'avez vécu comment, ça?
Voilà, quand on voit les vidéos, elle y est. Et après, je pense que ce but a été checké rapidement, mais voilà, ça, je pense que voilà, c'est dommage d'avoir eu cette fin de match, surtout que on n'a pas, entre guillemets, voilà, on a minimisé notre victoire par rapport à cette fin de match et ce but et les, voilà, les, comment dire, ce qui a été fait après par la Fédération française, mais au final, voilà, je pense que la victoire a été méritée.
Et c'était en plus ces dernières secondes, tes dernières secondes avec le maillot tunisien, puisque tu as annoncé ta retraite internationale derrière. T'avais plus la foi pour continuer ?
Bon, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait 5 Coupes d'Afrique, 2 Coupes du Monde. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir. J'ai représenté mon pays du mieux que je peux. J'ai rendu fier les gens. Moi, je suis fier d'avoir porté ce maillot. Et donc, voilà, terminer sur cette but-là contre l'équipe de France, cette victoire, je ne pouvais pas franchement espérer mieux. C'est vraiment comme dans un rêve. Et franchement, je suis vraiment content de terminer sur ça, parce que voilà, terminer contre l'équipe de France, le pays où je suis né, qui m'a tant donné, contre des gars que j'affronte et contre des top joueurs, des stars mondiales. Et surtout, je pense que voilà, j'ai senti aussi les gens très heureux pour moi d'avoir terminé sur ça. Le respect des joueurs qu'il y avait en face aussi à la fin du match, où j'ai pu discuter à la fin dans le vestiaire avec certains, c'est quelque chose, voilà, pour un joueur d'avoir cette reconnaissance-là, c'est top. Le coach de l'équipe de France a eu des bons mots aussi pour moi, m'a félicité. Donc voilà, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que des fois, moi qui me prends un peu la tête avec certains journalistes, où j'estime qu'il y en a qui ont une culture football pas très élevée, avoir la reconnaissance des mecs contre qui on joue, surtout des stars, et d'un coach qui a été champion du monde en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, c'est magnifique.
Ton dernier match, Wahbi Khazri, aussi dans un contexte particulier, tu parlais de l'équipe en face, il y a aussi le stade, il y avait une véritable marée rouge et blanche tunisienne dans ce stade. Finalement, pour les Bleus, c'était un avant-goût du match face au Maroc, mais il y a une diaspora tunisienne très importante au Qatar, ici. Ça t'a fait quoi voilà, de disputer ce dernier match, en plus, dans ce contexte-là, devant ses supporters?
Ah, ça a été exceptionnel. Franchement, on a joué les 3 matchs à domicile. Nous, on a eu la chance d'avoir une ambiance extraordinaire, une ferveur tunisienne qui nous a beaucoup porté. Je pense qu'il a fait qu'on a pris 4 points. On est déçu de ne pas leur avoir rendu en nous sortant des poules, mais je pense qu'on a montré quand même des valeurs, on a montré du respect à leur égard pour ce qu'ils nous ont donné aussi. Et on les remercie encore, parce que franchement, ils ont été extraordinaires, et j'espère qu'ils vont continuer à soutenir l'équipe, parce que voilà, on a une belle génération, on a une belle équipe de football, et comme le Maroc, on est capable de faire de belles choses parce qu'on a des bons joueurs, et voilà, on va avoir besoin aussi d'eux pour les compétitions à venir.
Wahbi, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta disponibilité sur toute cette Coupe du Monde. C'était top de t'avoir sur RMC. Et bonne fin de saison avec Montpellier, parce que ça va reprendre, bien sûr.
Ouais, je te remercie. Après, je me permets une petite parenthèse,
ouais,
que je vous écoute souvent.
Ouais.
J'aimerais que les gens ne banalisent pas quand même le parcours de l'équipe de France, parce que j'entends beaucoup de gens. Voilà, je trouve que il manque entre guillemets une autre ferveur qu'il peut y avoir dans d'autres pays. J'aimerais quand même que les gens se rendent compte de ce que cette équipe l'a fait.
Merci d'avoir passé le message, et bah à très vite sur RMC.
À très vite, vous m'appelez quand vous voulez, c'est un grand plaisir de discuter avec vous.
Avec plaisir. Wahbi Khazri, donc le néo-retraité avec la Tunisie, mais qu'on va continuer de voir en Ligue 1 avec Montpellier. Salut Wahbi. Et dans une seconde, on continue de refaire le parcours des Bleus. Place au match à élimination directe. La Pologne se dresse face à l'équipe de France. On revit tout ça avec Jeannot Rességuier, avec Arthur Perrault dans le film RMC de la Coupe du Monde. À tout de suite.
Le film RMC de la Coupe du Monde.